Vous savez, quand on ouvre la parole de Dieu, c'est une contemplation. On prend le temps. C'est ça, contempler. Et souvent, on passe très vite sur les textes. On lit parce qu'on connaît par cœur. On nous a raconté les histoires depuis l'enfance, pour ceux qui ont grandi dans l'Église. On sait plein d'histoires, l'histoire de David et Goliath. On connaît l'histoire de la femme à la perte de sang et tellement d'histoires. Et parfois, on ne peut pas s'arrêter sur des textes des fois connus, parce qu'on connaît l'histoire. C'est un peu comme quand on lit un livre ou on regarde un film, comme on connaît la fin, on connaît un petit peu l'intrigue, ça ne nous intéresse pas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous regardez peut-être même parfois le même film, la deuxième fois que vous le regardez ou la troisième fois, il y a des détails que vous n'avez pas vus. Et ce soir, on va aborder un texte, un passage que tout le monde connaît. Une fois de plus. Et je vous propose de l'aborder avec une méthode, la méthode du savon. C'est pas très beau, hein, la méthode du savon. Comme je viens de Marseille, vous savez que Marseille, c'est connu pour la bouillabaisse, la canebière, la xeng. C'est moi, je l'ai oublié à Marseille. Ou enfin, plutôt, je l'ai juste pas acquis. Mais aussi pour le savon de Marseille. Vous connaissez? Vous achetez le gel douche? En fait, en anglais, savon, c'est soap. S-O-A-P. S-O-A-P. Et la méthode soap est une méthode qui est très utilisée pour méditer la parole de Dieu. Et je l'avais partagée quelques fois avec les jeunes, et puis je la vous transmets avec vous. S pour... Je me sens tellement seul. Pas pour seul, hein, S, mais... Scripture. Écriture. On est dans l'anglais. O pour observation. Observation. A pour application, l'application. Et P pour au moins celui-là. Prière, prayer, c'est bien. Donc je vous propose donc de lire ce texte bien connu, enfin du moins cet épisode bien connu, tellement connu qu'il se trouve dans l'évangile de Luc et dans Matthieu, mais on va le lire dans l'évangile de Marc. Et... Avec le stress, j'ai aussi oublié ma Bible dans mon sac à dos. Du coup, heureusement que c'est un micro sans fil. Donc, ça vous laisse le temps de prendre Marc, chapitre 2, verset 1er. J'ai un peu triché, j'ai mis le marque-page. C'est bon, vous l'avez? Je la lis en version Summer. Je l'avais affiché en version Summer jusqu'à ce que ça s'efface. Je lis la parole de Dieu. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place. Pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent, du verbe défaire, la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il pardonner ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi. » Prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, Cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Jésus enseigne dans une maison, une foule accourt parce que Jésus est là, et puis quatre hommes amènent un paralysé. Et souvent, on cite ce passage pour dire Jésus guérit, et puis après on raconte l'histoire de ce débat un peu houleux entre les religieux de l'époque et Jésus par rapport à, oui, il est péché, il pardonnait, mais qui blasphème alors qu'en fait il a guéri, mais c'est quoi le plus facile à dire? Et on reste sur ça. Et ce soir, je vous propose, dans O de Observation, de nous focaliser sur le début de l'histoire. À partir du verset 3, on lui amena un paralysé porté par quatre hommes. Verset 4, « Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. » Plongeons-nous dans l'histoire. Quatre hommes prennent avec eux un brancard où il y a un paralytique, un paralysé. Est-ce que on observe la scène, vous voyez quatre hommes qui portent un paralytique. Ça ne vous pose pas question? Non? C'est normal? Moi, quand je passais à ce texte, quand je méditais dessus, je me disais, mais on ne parle pas de qui c'est ces quatre hommes. Qui c'est ce paralytique? Souvent, d'ailleurs, dans la Bible, on ne parle pas trop souvent des prénoms des gens qui ont été malades. On connaît peut-être Bartimée, on connaît... Ça m'échappe, mais il y a tellement de personnes malades qui sont venues à Jésus, dont on les appelle par leur maladie. La femme à la perte de sang, l'homme aveugle, le lépreux, le paralytique. Et la Bible laisse, je pense, quelque part, un peu cet anonymat, parce qu'on peut peut-être dire que ces anonymes, en fait, c'est nous. Ces quatre hommes, en fait, c'est nous. Ou même ce paralytique, c'est nous. Mais imaginez la scène. Pourquoi quatre hommes porteraient un paralytique pour l'emmener à Jésus? Qu'est-ce qui motiverait quatre hommes à amener un paralytique à Jésus? Vous êtes posé cette question? Vous êtes-vous imaginé vous-même, quand vous voyez peut-être un paralytique, dire « Mais est-ce que je peux amener cet homme, ce paralytique-là, à Jésus ? Qu'est-ce qui ferait que je passe de la réflexion à l'action ?» La réponse, peut-être la première, la plus évidente, c'est de dire « Mais c'est parce que c'est Jésus. » Et Jésus guérit. Juste avant, chapitre 1, verset 45, on parle de Jésus qui a une renommée. Jésus guérit, tout le monde le sait, parce que Jésus l'a guéri un lépreux. Bon, dans les autres évangiles, c'est autre chose. Mais c'était la même conclusion. Juste avant, la renommée de Jésus était tellement grande que tout le monde a couru. Là où il y avait Jésus, on y allait. Jésus était dans cette maison, on y va les gars. Et là, Jésus était dans cette maison à Capernaum, on y va, on va écouter. Parce que la renommée de Jésus, c'est qu'un Jésus qui guérit. Et l'Église, encore aujourd'hui, on prêche ce message. Jésus guérit. Et c'est un message encore vrai. C'est pour ça qu'on fait des appels, c'est pour ça qu'on prie pour les malades. C'est parce qu'on connaît ce Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Ok, ça c'est une vérité fondamentale. Mais si Jésus guérit, il peut voir de loin parce qu'il sait tout. Il peut voir ce paralytique loin. Pourquoi aurait-il emmené Pourquoi on aurait besoin d'emmener ce paralytique à Jésus? Il sait. En plus, verset 4, les gars, ils sont là. Et s'il faut donner un titre à ce message, ce serait les quatre fantastiques. Et vous allez savoir pourquoi. Les quatre gars sont là. Et puis le verset 4, il nous dit, il y a une foule. Une foule. Voyez une maison, voyez une porte, et voyez tout le monde. Il y a tellement de monde que du coup, il y a une foule. Et il faut trouver une stratégie pour savoir où est-ce qu'il faut aller, par où rentrer. Alors il dit, hey, il y a le toit. Il ne se décourage pas, il persévère. C'est pas pratique de se balader comme ça avec un brancard. Un accident est vite arrivé. Mais on va passer par le toit. Mais encore plus fou, sur le toit, on va faire un petit trou. Enfin, petit. Peut-être pas, parce qu'il faut quand même passer notre copain quand même. Je ne pense pas que s'ils étaient à l'extérieur et pas au premier rang, que c'était la maison de l'un des quatre. Peut-être même pas la maison du paralytique. Vous oseriez-vous toucher la maison de quelqu'un d'autre? À moins que ce soit un cambriolage. Pas très encouragé. Mais non. La toiture est blindée. Mais on va la défaire pour laisser passer le paralytique. Je ne sais pas dans quelle culture on fait ça. Qu'est-ce qui motive ces quatre hommes à voir ces obstacles apparents, à faire au mieux pour traverser la foule, pour amener ce paralytique à Jésus, à défaire un toit pour l'emmener à Jésus? Si on transpose aujourd'hui pour trouver une application, qu'est-ce qui me motiverait, moi, à intercéder, à emmener mon copain, ma copine, mon frère, ma sœur, mon prochain à Jésus? Qu'est-ce qui ferait que j'irai à la réunion de prière et que j'ouvrirai ma bouche pour exprimer ce besoin? Qu'est-ce qui me motiverait, moi, à aller au-delà de cette foule qui peut être tellement de choses, la timidité, le quand dira-t-on, et c'est pas mon truc, et la flemme, et la fatigue, et rajoutez tous les mots que vous voulez, qui peut être la foule et le toit. Qui ferait que je n'amènerai pas la personne dans le besoin à Jésus? Parce que je sais que Jésus est guéri. Parce que mon Dieu est tout puissant. Mais qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? C'est quoi les liens entre les quatre hommes et le paralytique? Est-ce que c'était des amis? Est-ce que c'était des membres de la même famille? Est-ce que c'était des inconnus les uns avec les autres? Et puis il y en a un qui a vu un paralytique et il a dit peut-être, et si on l'amenait à Jésus? Peut-être c'était des inconnus, on ne sait pas. Et ça c'est bien. Parce qu'on ne sait pas qui ils étaient, quelles relations ils avaient entre eux. Et ça nous parle des uns des autres, parce qu'on peut être des membres de la même famille. On peut être des frères et sœurs. On peut être totalement aussi des inconnus. Mais est-ce que ça nous empêcherait d'emmener mon prochain à Jésus-Christ, celui qui peut tout? Et ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit se poser. Verset suivant. Lorsqu'il vit, c'est Jésus. Quelle foi ces hommes avaient en lui. Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je veux juste m'arrêter sur cette partie. Lorsqu'il a vu leur foi, n'est pas la foi du paralytique. Ce n'est pas la foi du malade. C'est leur foi. Leur foi à tous. Cette foi, cette confiance qui a fait que j'ai traversé la foule. Cette foi qui a fait que, même si ce n'était pas ma maison, je défais le toit pour faire passer celui qui en a besoin. Cette foi qui fait que j'amène au trône de la grâce, parce que lui, il a besoin de la grâce de Dieu. Souvent, on a l'impression, et je ne sais pas pourquoi, que des fois, on n'est pas guéri parce que la personne, elle manque de foi, ou alors, je ne sais pas, c'est, on a l'impression que la foi, oui, elle est personnelle, mais comme si, en fait, la foi des autres ne peut pas, genre, être combinée ou s'additionner ou se rassembler. Comme si, en fait, ça dépendait que de la foi seule du paralytique. Oui, Bartimée, quand il a crié à Jésus, « Oh, fils de David, fils de David !» Oui, il avait la foi. Pour lui-même, pour être guéri. Pour retrouver la vue. Mais bien des fois dans la Bible, il y a des exemples où c'est quelqu'un qui est venu pour quelqu'un d'autre. Le centenier romain, il est venu à Jésus pour qui ? Son serviteur. La femme cananéenne, elle est venue pour qui ? Sa fille. Ou son fils ? Son enfant ? Ouais, pas de mélange. Le papa qui est venu parce que son fils s'était tourmenté par un démon, il a intercédé pour son enfant. Il y a des fois au milieu de nous, des gens qui peut-être ne peuvent pas demander à Jésus. Et peut-être que c'est à nous, Église, corps de Christ, de le faire. D'emmener les gens au trône de la grâce. Et peut-être parfois nous sommes comme ce papa qui avait un fils qui était tourmenté, où Jésus pointe un petit peu le doigt, non pas pour le juger, mais pour montrer sur quel aspect il fallait travailler. Alors que cet homme demande à Jésus de guérir, de délivrer son fils, Jésus pointe du doigt et dit « Mais t'es un peu incrédule. » Mais ce papa, il demande quand même à Jésus, hein. Mais cet homme vient et dit « Viens au secours de mon incrédulité, que je puisse croire encore. » Et là, le miracle s'opère. Parfois, je suis comme ces quatre fantastiques. Parfois, je peux être aussi à la fois comme ce paralysé. Et j'ai besoin des copains. J'ai besoin des frères et des sœurs. Parce que je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain. Je suis tout aussi imparfait. Et parfois, j'ai besoin qu'on m'emmène au trône de la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est bien quand aussi c'est des inconnus. On ne sait pas leur statut social. On ne sait pas s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. On sait juste qu'ils ont besoin de Jésus. Et c'est peut-être l'essentiel. Et aujourd'hui, comme toutes les fois où on se rassemble au culte, jeûne et prière, jeunesse, réunion de maison, toutes les occasions qu'on peut avoir de se rassembler, où on rassemble notre foi autour de Jésus-Christ, qu'on puisse le faire. C'est des moments faits pour, où on amène des gens au trône de la grâce de Jésus, afin qu'il opère des miracles et des prodiges. Ce paralytique, ça peut être mon fils. Ce paralytique, c'est ma fille qui ne croit pas en Jésus. Ce paralytique, c'est mon père, c'est ma mère qui n'est pas convertie. C'est mes amis, mes collègues, les gens que je côtoie qui ne sont pas sauvés. Alors que nous puissions alors intercéder, prier pour ces gens, pour leur salut, qu'on le prenne à cœur. Parce que lorsque nous intercédons, nous répondons aux deux premiers commandements de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En intercédant, tu reconnais Dieu comme étant capable. tu prends tes responsabilités et tu fais les choses que Dieu te demande. Et en intercédant, tu amènes ton prochain, qu'importe ton niveau de relation avec cette personne, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, au trône de la grâce de Dieu. Parce que c'est ce dont il a besoin, lui, ce paralysé, ce paralytique. Et là, Jésus, voyant leur foi, voyant notre foi, c'est là qu'il opère. Or, que Dieu nous aide. Dieu nous aide à réaliser toute cette dimension. Peut-être que je comprends et on chante que Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Mais peut-être que c'est juste des chants et que ça fait des hymnes. Et c'est pour ça qu'on contemple la parole de Dieu, où ses vérités ressortent. Et c'est pour ça qu'on a des témoignages tout autour de nous. Parce que ces témoignages illustrent, renforcent ce côté de Jésus qui guérit encore aujourd'hui et qui sauve. Ce n'est pas pour notre gloire qu'on rend témoignage. C'est pour présenter le Christ. Pour présenter le chemin, la vérité et la vie. Pour conclure, juste avec ce verset, Matthieu 4, 24. Sa réputation, celle de Jésus, gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Votre témoignage, mon témoignage, notre témoignage est tout aussi précieux. Car lorsque vous le racontez, vous donnez à croire aux autres, vous donnez envie de croire aux autres. Alors les gens ne viendront pas dans une institution ou qu'importe, mais ils viendront à Christ. Et de plus en plus, c'est par des signes, des prodiges et des miracles que les gens verront aussi, j'ai dit aussi, que Dieu, ce n'est pas du passé. Dieu, c'est encore aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'il guérit et qu'il sauve encore aujourd'hui. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, pour les perdus aussi, qu'ils reconnaîtront que nous sommes disciples de Christ. Alors qu'on puisse prier. Seigneur, je te demande pardon, parce que tant de fois j'ai manqué de t'apporter au trône de ta grâce les gens que tu me fais rencontrer, les gens qui étaient dans le besoin. Même là ici, à Toulouse-Ouest, où il y a des gens qui sont malades, Seigneur, et qui souffrent, et qui même peut-être parfois ne s'expriment pas. Et Seigneur, je te prie afin que, Seigneur mon Dieu, tu nous aides à nous souvenir d'eux, à ce qu'on puisse les mentionner, à ce qu'on puisse dire leur nom pour te les amener au trône de ta grâce. Seigneur mon Dieu, je te prie de m'aider à avoir ce cœur compatissant, ce cœur plein d'amour pour t'apporter, Seigneur mon Dieu, ces êtres qui ont besoin de toi, qui se réclament de toi et qui peut-être même ne te connaissent pas, mais qui ont tellement besoin de toi d'être sauvés. Je veux t'apporter mon père, ma mère, mes frères, mes enfants. Je veux t'apporter tous les membres de ma famille, tous mes collègues, tout, Seigneur mon Dieu. Et je vous invite de le faire avec moi, de mentionner tous les gens qui vous passent par la tête, de dire « Je t'amène au trône de ta grâce. » Seigneur, je veux t'apporter, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes que tu me fais rencontrer, mes collègues de travail, au trône de ta grâce. Tout mon frère et ma sœur en ce moment, Seigneur mon Dieu, qui passent par des épreuves. Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi. Toutes ces personnes qui, Seigneur mon Dieu, passent par la maladie, qui a besoin de toi. Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont besoin de percer, Seigneur Jésus. Et on énumérera d'autres sujets de prière encore plus tard, Seigneur mon Dieu. Mais je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous prendre, qu'on puisse prendre à cœur, Seigneur mon Dieu, leurs souffrances, leurs douleurs, leurs besoins. Seigneur, comme toi tu l'as fait, quand tu étais sur la terre des hommes et tu nous l'as montré, Seigneur Jésus, tu t'es occupé des rejetés, tu t'es occupé des malades, tu t'es occupé des lépreux, tu t'es occupé de ceux qui socialement en fait étaient loin de toi, loin du peuple rejeté. Et tu les as accueillis. Seigneur, je veux te les remettre au trône de ta grâce. Seigneur, je veux avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi. Seigneur, je veux te prier afin que je sois comme ces quatre hommes. Seigneur mon Dieu, qui a emmené ce paralytique. Et même lorsque je suis comme ce paralytique, Seigneur mon Dieu, je te demande ta grâce. Seigneur, parce que même si je vois peut-être une foule devant moi, même si je vois, Seigneur mon Dieu, un toit devant moi, Seigneur mon Dieu, je veux persévérer. Je ne veux pas juste m'arrêter aux obstacles apparents, mais je veux m'arrêter au trône de ta grâce. Seigneur, je veux briser la timidité, je veux briser la peur, je veux briser de « et ça ne sert à rien » tous ces mensonges dans ma tête. Je veux briser tous ces mensonges qui sont dans ma tête et qui disent que ça ne sert à rien ce que je fais, ou alors ça ne sert à rien de venir ici et de prier pour intercéder, de mener le combat. Seigneur, je veux briser tous ces mensonges, je veux apporter ma pierre. Je veux ouvrir ma bouche pour t'amener au trône de la grâce, celui qui est dans le besoin. Seigneur, je veux mener ce combat afin que, Seigneur mon Dieu, on puisse entendre le témoignage de ta puissance encore une fois au XXIe siècle, ici localement à Toulouse-Ouest, des choses que tu as fait. Les portes fermées, la foule, le toit fermé, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui ouvres. Seigneur, c'est toi qui fais tout. Je veux prendre ma part de responsabilité en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en intercédant. Mais Seigneur mon Dieu, je t'en prie, glorifie-toi. Glorifie-toi dans ma vie, dans notre vie. Merci pour tout, Jésus. Amen.